Mes très chers amis, bienvenue sur 12 par sec, la chaîne de l'à peu près. Parce que tout ce que je raconte, on va dire que c'est à peu près ça. Nous sommes en 2026, 12 par sec est toujours là. Sa légende grandit, portée par des millions d'esprits curieux. Et certainement aussi par un sacré paquet de connards. Oui, je parle de vous. 12 par sec, la seule chaîne qui traite ses abonnés de connards au lieu de leur souhaiter bonne année. La chaîne brille plus que jamais, comme une étoile qui refuse de s'éteindre et éclaire de plus en plus loin à chaque nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être là. Bon, en 2026, on arrête les conneries, les gars. Plus de Van Boff, plus de vulgarité, terminé. Je repositionne complètement mon image. 12 par sec, c'est la classe et le temple du bon goût. Bien, après ma dernière vidéo sur l'affrontement légendaire entre le Carlin et le Maine Coon, vidéo qui n'a pas du tout marché, hein, elle a fait un score minable. Et c'est bien dommage parce qu'avec PH, on se balance Vlad et Van dans nos gueules. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau. Le Seigneur des Anneaux et plus particulièrement le premier film qui adapte le premier livre, La Communauté de l'Anneau. Allez, on y va parce que on a de la route. Hein. Dans Le Seigneur des Anneaux, tout repose sur les lignées. Aragorn, c'est pas juste un mec un peu classe avec une barbe et des yeux de cocker. C'est le descendant du roi Isildur et l'héritier de plusieurs siècles d'histoire. Les elfes vivent depuis des millénaires. Ils ont des arbres généalogiques tellement immenses et tellement complexes qu'on croirait voir la liste de tous les gens à qui je dois de l'argent. Et Tolkien, ce grand malade, il a littéralement inventé l'équivalent de My Heritage pour toute la Terre du Milieu. Et justement, ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par My Heritage. My Heritage est un site qui te permet de reconstruire ton arbre généalogique, de retrouver tes ancêtres, de comprendre d'où tu viens, et parfois même de découvrir des trucs complètement ouf sur ta famille. C'est le site de généalogie numéro 1 dans le monde, avec plus de 90 millions d'utilisateurs et plus de 36 milliards de documents historiques. C'est que ça, on n'arrive pas à retrouver des ancêtres à toi, c'est que vraiment, ils étaient personnes. Avec ça, tu peux connecter les branches, tu peux connecter les familles entre elles grâce à des fiches de personnes qui ont déjà été créées par d'autres utilisateurs. Et tu découvres d'anciennes générations, et tu comprends un petit peu plus comment ton histoire personnelle s'étale sur parfois plusieurs siècle. Exactement comme pour les elfes, sauf que MyHeritage, c'est dans la vraie vie. Peut-être qu'il y a des gens dans ta famille, ils ont tenu dans leurs mains l'anneau unique. Peut-être que ton arrière-grand-père, c'est Gollum. Il vous suffit d'aller sur MyHeritage.com, vous vous inscrivez, et là vous avez juste à créer les fiches de seulement 7 personnes. On les appelle les Magic 7. Magic 7, c'est vrai. On dirait un peu le nom d'un boys band américain où les mecs, ils étaient 6, mais ils savaient pas compter. Vous créez votre fiche avec votre nom, prénom, date et lieu de naissance et tout, les fiches de vos parents et de vos grands-parents, et à partir de là, MyHeritage s'occupe du reste. Et en quelques clics, il peut vous trouver des dizaines de membres de votre famille. Il vous fait des correspondances par personne. Mais t'es mal, moi, il m'a trouvé une personne née en 1680. Ah, et là, ça remonte à loin. En plus, je crois que je la connais. Elle est même pas morte, hein. Elle est toujours là. De toute façon, je suis sûr, moi, dans ma famille, il y a des elfes. Et ce que je kiffe avec MyHeritage, c'est qu'ils ont aussi des outils pour coloriser les photos en noir et blanc, pour redonner vie au visage, et même pour animer les photos anciennes. Comme si tu pouvais voir tes arrière-grands-parents te regarder à nouveau, bouger et sourire. C'est littéralement de la nécromancie. Hein, on ramène un peu les morts à la vie, mais de manière bienveillante, évidemment. Version Tolkien. En fait, grâce à MyHeritage, on joue un petit peu à Sauron, en quelque sorte. Ça fait 2 ans que je travaille avec MyHeritage, et ce que je kiffe, en fait, c'est que à chaque fois que je me connecte, même si c'est genre, je sais pas, 3 mois ou peut-être même 6 mois après, ils me proposent toujours des nouvelles correspondances. En fait, ça s'arrête jamais. Alors, si vous êtes déjà demandé, mais c'était qui mes ancêtres? D'où je viens vraiment? Est-ce que j'ai un elfe, un nain ou un hobbit planqué quelque part dans ma lignée? Eh bien, MyHeritage est probablement le palantir qu'il vous faut, et qui vous révélera tous les secrets de votre famille. Le lien est dans la description, et si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez l'essayer 14 jours totalement gratuitement. Allez, moi je retourne étudier les arbres généalogiques des elfes, parce que eux, clairement, ils sont abonnés premium à MyHeritage depuis le premier âge. Merci beaucoup MyHeritage d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Alors, le Seigneur des Anneaux. Nul. C'est nul. Il se passe rien, les mecs font que marcher pendant 3 heures. Quand ils peuvent pas passer par un endroit, ils passent par un autre. Et puis nous, on attend. On attend que ça se passe. Ah bah si vous êtes allé le voir au cinéma, vous pouviez bien aller pisser 3-4 fois, vous ratiez rien d'important. Évidemment, j'exagère. Parce que moi, le Seigneur des Anneaux, je surkiffe. Comme des millions de personnes, j'ai découvert cet univers grâce aux films parce que j'avais pas lu les livres. Et aujourd'hui, je les ai toujours pas lus non plus, d'ailleurs. Pourtant, ils sont là. Ils sont juste là, voilà, dans le coffret. Bon, je les ai pour faire un petit peu bien dans la collection, mais si, j'ai commencé le premier. Justement, La Communauté de l'Anneau, mais j'ai arrêté au titre parce que ouais, ça me faisait chier. Trop de descriptions. Bon, alors on va abréger un peu sur la partie making of, anecdotes de tournage et tout le pourquoi du comment, parce que ça a déjà été raconté des milliers de fois. Je vous mets en description des liens de 2-3 vidéos de youtubeurs qui ont déjà tout raconté en long, en large, en travers. Si ça vous intéresse, allez voir. Le truc, c'est que il y aurait 1 million de choses à dire sur Le Seigneur des Anneaux. Tolkien a créé un univers qui est tellement riche, mais vous avez pas idée. Les personnages ont tous une histoire. Les elfes style Galadriel, mais il leur a fait des arbres généalogiques de malades. Il a créé des dizaines, pour ne pas dire des centaines de personnages, de lieux, d'événements, de cultures. Il a créé des langages, des âges différentes. Le Seigneur des Anneaux, ça se déroule au 3e âge de la Terre du Milieu, mais avant, bah, il y a eu le 2e âge et le 1er âge, avec plein d'événements et de guerres et tout. Tolkien a créé toute une immense mythologie avec le tout premier grand dieu créateur, Eru Ilúvatar, qui a créé des Valar qui vont façonner le monde, avec l'aide d'esprits qui leur seront associés, qui s'appellent les Maillards. Et d'ailleurs, l'un des Maillards s'appellera Méron, et qui sera plus tard Sauron. Alors Sauron, ça signifie le détestable en haut elfique. Du coup, PH, je pense qu'en 2026, je vais l'appeler comme ça toute l'année maintenant. Bref, tout ça c'est expliqué dans le Silmarillion que Tolkien a écrit un peu tout au long de sa vie et qui a été publié à titre posthume en 77. Tolkien est mort en 73, soit plus de 20 ans après la publication des 3 romans Le Seigneur des Anneaux en 1954 et 1955. C'est une œuvre hyper dense qui raconte toute l'histoire du monde depuis sa création jusqu'aux événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. D'où viennent les elfes, les hommes, Sauron, Gandalf et tout? Comment le mal est apparu? C'est une histoire qui se passe sur des millénaires. En gros, c'est la Bible mais version Tolkien. Et Le Seigneur des Anneaux arrive après tout ça et raconte donc la fin d'une histoire qui se déroule depuis des millénaires. Alors pendant la vidéo, je vous balancerai quelques petites infos sur les différences qu'il y a entre le film et le livre, mais on va pas passer trop de temps là-dessus non plus. Les principales différences sont dues au fait que le livre contient énormément d'informations, énormément de personnages qui seraient beaucoup trop longs et fastidieux de mettre en scène dans le film, qui en plus dure déjà plus de 3 heures. Une des plus grosses différences, c'est peut-être quand Frodo et Sam quittent le comté et commencent leur périple. Il se passe une chose dans le livre qui est très long et qui dure 3 chapitres entiers et qui est totalement absent du film. Ils vont rencontrer un personnage qui s'appelle Tom Bombadil, qui est hyper énigmatique. Le type, il serait plus vieux que tout le monde, plus vieux que les elfes, plus vieux que la Terre elle-même. Il est présenté comme le seul personnage de toute la Terre du Milieu sur lequel l'anneau n'a aucune influence. Dans le livre, Frodo lui donne l'anneau, hein, Tom Bombadil va le mettre au doigt et il va pas disparaître. Ensuite, quand les hobbits vont partir de chez lui, ils vont même se faire capturer par des esprits de je sais pas quoi, et Tom Bombadil va venir les sauver. Et évidemment, Peter Jackson a fait l'impasse là-dessus parce que c'était encore un autre arc narratif hyper lourd avec un personnage hyper puissant qu'il aurait fallu présenter avec 20 minutes de flashback, tu vois. On comprend donc qu'il y a des choix de narration qui sont faits et qui sont un peu obligés pour que le rythme soit correct et que le film ne dure pas 6 heures. De même que pour Arwen, qui a un rôle beaucoup plus important dans le film que dans le livre. Dans le livre, on la voit quasiment pas. Sauf quand elle a sa relation avec Aragorn. Mais c'est pas elle qui vient la sauver quand Frodo se fait planter par un Nazgûl. C'est pas elle qui fait monter l'eau de la rivière. C'est un elfe, hein, mâle, qui s'appelle Glorfindel. C'est un personnage hyper important dans le livre, hein, assez présent, mais qu'on ne verra pas une seule fois dans le film, il ne sera même jamais cité. Et encore une fois, c'est pareil, là, Peter Jackson, il a pas voulu introduire un énième personnage hyper important qu'il aurait aussi fallu présenter. Donc il a un peu remplacé Glorfindel par Arwen, et là bah, ça permettait aussi de mettre en avant un personnage féminin, car on va pas se mentir, dans toute la saga du Seigneur des Anneaux, les personnages féminins ne sont pas particulièrement les plus importants. Quand on en voit une, c'est uniquement pour qu'elle fasse sa bouffée, et encore c'est dégueulasse. Mais en même temps, c'est normal. Souvenez-vous toujours de la citation la plus importante, la plus profonde et la plus philosophique de toute la saga Star Wars.
Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là.
Non, plus sérieusement, c'est cool de l'avoir fait, justement. On voit plus Arwen et Eowyn dans le 2 et le 3, par exemple, et c'est tant mieux. En fait, les différences, c'est que dans les films, tout a l'air d'aller beaucoup plus vite. Les actions et les lieux s'enchaînent parfois dans la même journée. Ils partent d'un lieu le matin, il se passe un truc dans la journée, et ils arrivent là où ils doivent arriver le soir. Alors qu'évidemment, dans le livre, ça se passe sur des jours, des semaines, et même parfois des années entières. Mais voilà, on comprend bien que ça sert pas à grand chose de faire traîner le film en longueur, donc on dynamise le récit et c'est bien normal. C'est déjà assez long comme ça. Et c'est clair que c'est très long. Leur périple est tellement long que non seulement ils doivent marcher, mais ils doivent aussi être portés. Portés par des chevaux, portés par des orques, par des aigles, par des arbres. Ils se portent même entre eux. Hein. Et là, je me suis refait le film pour la vidéo justement, et je peux vous dire qu'il y a plein de fois où je me suis dit, franchement, je parlerai pas non plus du casting, étant donné qu'il y a tellement d'acteurs et d'actrices tellement drôles. On les connaît tous, Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Christopher Lee, Sean Austin, etc., etc. Allez, on lance le film. Et c'est parti, vous allez voir, allez, on va bien s'emmerder.
Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre.
Est-ce qu'on pourra avoir l'image, s'il vous plaît?
Je le sens dans l'air.
Est-ce qu'on pourra avoir l'image, s'il vous plaît?
Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu.
Tu peux vérifier si le câble HDMI est bien branché, s'il te plaît?
Non mais je crois que c'est normal, hein, le film il commence comme ça.
Ah bon?
Ouais.
Alors remarque, c'est bien, hein, ça économise de la pellicule.
Non, non, pas du tout, ça a été tourné en numérique.
Ah non, ah, ça a été tourné en 35 mm, en Super 35 plus exactement. Comme les deux autres films, c'est la trilogie du Hobbit qui l'a tourné en numérique.
Ah oui, pardon. Oui.
Alors, ça m'a un peu ton claque-merde. Et le voilà, le titre, oh, que c'est beau. Et on commence avec une introduction de 45 minutes dans laquelle on va nous poser un peu les bails. On nous dit qu'il y a des anneaux qui ont été forgés et qu'on en a filé un petit peu à tout le monde. Trois pour les elfes. Les elfes, c'est des gens qui ressemblent un petit peu à des profs de collège, tu vois, des profs dépressifs qui ont un peu raté leur vie.
Pourquoi tu dis ça?
Je sais pas, moi, j'ai juste envie d'être méchant, là. De toute façon, en 2026, moi je vous le dis, la méchanceté gratuite sera l'un des thèmes les plus récurrents de la chaîne. Si des fois vous aviez un petit peu espoir en l'humanité, je vais essayer de vous le faire perdre totalement.
7. Au seigneur nain.
7 anneaux pour les 7 nains. Mmh. Et oui, Tolkien était déjà fan de Cendrillon. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes. Voilà. 9 anneaux aux hommes. Et pas aux femmes, hein, t'as vu? Bon, attends, non, en même temps, si tu commences à leur filer des trucs, après, ils vont te réclamer le bracelet, le collier, les boucles d'oreilles. Non, non, attends.
Si on réussit à éviter que les bonnes femmes...
Et on apprend ensuite qu'il y a un type qui s'appelle Sauron. Alors, en fait, Sauron, c'est pas un type, le mec. C'est un peu un démon, tu vois, voilà, c'est pas un humain. Au départ, c'est une sorte d'ange. C'est même un assistant, au début, hein. Il s'appelait Méron. Et il a été corrompu par un dieu qui s'appelait Morgoth. Il est devenu méchant et il a berné tout le monde en filant des soi-disant anneaux de pouvoir. Parce que c'est lui qui les donne au début. Hein. C'est Sauron qui donne tous les anneaux aux autres là en leur disant que vous allez avoir plein de trucs de ouf. Avec ça, vous pourrez passer devant tout le monde dans les files d'attente. Vous serez sûr que laissez automatiquement sur les vols Ryanair. S'il y a de la place, hein, bien sûr. Et vous aurez même 15% de réduction sur les coquilles Saint-Jacques à Leclerc. Par contre, faut se dépêcher, l'offre est finie la semaine prochaine. Sauf qu'en fait, le Sauron, il leur a tendu un piège. Parce qu'il a forgé un autre anneau beaucoup plus puissant au nez et à la barbe de tout le monde.
Un anneau pour les gouverner tous.
Eh oui, parce qu'au cas où vous ne l'aurez pas encore compris, le seigneur des anneaux, c'est Sauron. Ah bah c'est pas Faramir, hein. Putain de tocard lui, mais il sert à rien lui, mais tu m'étonnes qu'il finisse avec Eowyn. Ah ils sont bien trouvés ces deux-là. Ah oui, je vous spoil, oui, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Enfin, depuis le temps vous me connaissez, hein. Et puis pour les nouveaux, bah voilà, vous savez où mettez les pieds. Hein. Et donc comme Sauron il foutait la merde partout, les peuples se sont dressés contre lui, et ça a fait des guerres de ouf, et c'est là qu'on découvre les orques. Et la première grande scène de bataille du film, une scène de ouf, la dernière alliance des hommes et des elfes, avec des plans de malades, on comprend que les enjeux sont colossaux. Ah mais ce sont des enjeux qui nous dépassent complètement. Ouais. Et surtout, on voit la puissance de l'anneau. Parce que quand Sauron apparaît, il fait vraiment le ménage. Et pas dans vos mères, bande de bâtards. Et là, hey, vous en voulez encore? Ah moi je suis là toute la nuit, je suis pas pressé. Hein. Oh, mais comment j'aimerais trop l'avoir son anneau en vrai, ça a l'air terrible. T'imagines si tu pouvais faire ça, comment ça pourrait être super pratique en fait. Quand tu vas dans un endroit où il y a plein de monde, tu vois, comme je sais pas moi, par exemple, les Restos du Cœur ou le Secours Populaire. Toi t'as bouffé comme un porc pour Noël le jour de l'an, t'as pris 10 kilos, toi. Et résultat, bah t'as plus de bouffe chez toi. Tu te dis quoi? Bon bah pour la nouvelle année, on va y aller tranquille, on va faire un petit régime. Toi tu cherches un petit bol de soupe chaude au Secours Populaire, et quand t'arrives, tu vois tous les clodos, et là! Barrez-vous, bonne de merde! Barre-toi, toi! Allez, au goulag! C'est moi qui passe en premier! Vous avez qu'à avoir l'anneau! Voyez? C'est pour ça que ça devrait être inventé, l'anneau, en fait. Le pouvoir, on s'en fout, c'est pour plein de petits trucs comme ça du quotidien, tu vois. Il y a quand même un moment où Isildur, le fils du roi, arrive à couper la main de Sauron qui perd l'anneau et disparaît à tout jamais.
Sauron fut vaincu.
Et voilà, c'était pas si compliqué en fait. Fallait juste y couper la main à l'autre. Là. Entre parenthèses, je trouve quand même très con de la part de Sauron de mettre l'anneau autant en évidence comme ça. Attends, le truc c'est ton arme ultime, tu le protèges un minimum quoi. Là c'est limite, tu lui proposes pas carrément de lui couper la main toi. Ah non, mais Sauron est pas plus intelligent que les autres. Hein. Ça doit être un démon, il fait aussi beaucoup de conneries. Hein. Et Isildur récupère donc l'anneau et se barre avec, mais il se fait directement tuer par des orques parce qu'on nous dit que l'anneau l'a trahi. Parce qu'en fait, l'anneau, quand tu le mets au doigt, tu disparais. Et ça marche très très bien, regardez, même moi je peux le faire. Attention, regardez. Et voilà, je suis pas là, il est disparu, voilà. C'est... Non mais c'est facile, hein, regardez, attention. Putain, j'arrive plus à l'enlever, merde. J'arrive plus à l'enlever. j'ai eu peur, parce que mais c'est quand même un très très bon outil. Hein. Et Isildur, évidemment, il l'a mis aussi bah, pour se cacher. Sauf que l'anneau le trahit en se barrant, ce qui fait qu'Isildur n'est plus invisible et que les autres peuvent le tuer. Et donc là, la voix nous dit que c'est l'anneau qui a décidé de se barrer. Toi. Genre l'anneau, il réfléchit, tu vois, il prend des décisions, il fait des trucs tout seul. Quoi. Bien sûr, on va vous croire.
Ouais. Non mais c'est parce que Sauron, il a mis une part de son âme dans l'anneau.
Mais c'est n'importe quoi, mais ça ne veut rien dire. Mais l'anneau, il est incapable de faire quoi que ce soit. C'est un anneau. Faut arrêter un peu, là.
Pendant 2500 ans, plus personne n'entendit parler de l'anneau.
L'anneau, il peut faire des trucs, il peut rien faire, en fait. Il a pas de jambes, il a pas de pieds. Tu le laisses au fond d'une rivière, il peut rien faire, hein, c'est un anneau. Alors faut se calmer un peu aussi, là. Ensuite, l'anneau est récupéré par une créature qui s'appelle PH. Enfin, Gollum, pardon. Excusez-moi, non, mais c'est, j'arrête pas de les confondre tout le temps. Mais... Et Gollum garde l'anneau pendant 60 ans. Et un jour, l'anneau décide de se barrer. Bon, en fait, il tombe, hein. Il décide de rien du tout. Hein. Oui, l'anneau décide de... Tiens, là. Non, mais arrête, là. Là, tu commences déjà à te foutre de notre gueule. Et l'anneau est ramassé par un hobbit.
Bilbon Sacquet de la Comté.
Et voilà pour l'introduction. On n'a pas duré si longtemps que ça, en fait. Hein. Elle a duré 7 minutes. C'est une durée plutôt normale pour les préliminaires. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et nous voilà donc dans la Comté, chez les Hobbits. Et là, Bilbo va nous faire une petite présentation de son peuple, hein, de sa race. D'habitude, c'est vrai que c'est pas terrible de dire race pour une gens, mais bon, là, c'est vrai, là, c'est sa race. Et voir que c'est même une vieille race bien pourrie. En gros, les Hobbits, ce sont des nains irlandais consanguins, avec des bonnes têtes de philosophes qui aiment les échecs, et qui ne foutent rien d'autre dans leur vie que boire, bouffer, fumer et faire la chouille. Les mecs, ils ont tout compris à la vie. Ah, moi, je peux vous dire que si je devais être un personnage du Seigneur des Anneaux, je serais pas un elfe ou une connerie comme ça. Je serais un hobbit, ça fait pas un pli. Et voici Frodon, mesdames et messieurs, le personnage principal de cette saga. Alors, j'ai horreur de dire Frodon et Bilbon Sacquet. Je préfère largement dire Frodo et Bilbo Baggins, hein, leur vrai nom en VO, en fait. Mais là, comme c'est de la VF, bah, on va le dire comme ça. Et donc, Frodon, voilà, qui est en train de bouquiner à l'ombre d'un arbre. Quelle véritable image d'Épinal. Peut-être qu'il lit le Seigneur des Anneaux, hein. Bah, pour savoir un peu ce qui va se passer après. Non, là, je crois que ce serait plutôt comment se laver les pieds en 10 leçons. Alors, faut tout de suite qu'on dise un truc sur les hobbits. Ils ont les pieds dégueulasses. C'est pas compliqué, on dirait les miens. En fait, ils sont tout le temps pieds nus parce qu'ils ont la plante des pieds extrêmement épaisse et très poilue aussi, hein, donc ils ont quasiment jamais froid. Et donc, ils ne mettent jamais de chaussures, ils sont tout le temps pieds nus. Ce qui fait qu'ils ont les pieds totalement immondes. Ah, pour ceux qui ont la phobie des pieds, hein, ça existe ce truc-là, c'est sûr que Le Seigneur des Anneaux, c'est un film d'horreur. Et là, il y a un vieux clodo qui débarque sur son chariot. Frodon va le voir et lui teinte à peu près ce langage. Oh, vous allez où comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je passe, j'ai pas le droit de passer. Je vais voir ta mère, ce qui paraît, paye son cul et toute la comté t'es invité. Ok, du coup, je viens aussi. Et là, on apprend que Bilbon fête son anniversaire, il a 111 ans, et tout le monde est invité, y compris le vieux Clodo, qui est en fait le grand magicien Gandalf le Gris. Parce qu'en fait, Bilbon et Gandalf sont potes, et c'est ça qu'on a découvert dans la trilogie Les Hobbits, qui se déroule donc avant Le Seigneur des Anneaux. Et justement, Gandalf va voir son pote.
Mais y'a personne, barrez-vous, j'ai pas que ça à foutre, je suis occupé là.
Dépêche-toi d'ouvrir ou je te fous mon pied au cul, enculé. Ah mais Gandalf il est comme ça, c'est les magiciens, ça prend la mouche hyper facilement. Et en même temps il vient de loin aussi, hein, je dirais, il va pas se faire refuser l'entrée quoi. Il le veut son petit coup de pif. Putain mais c'est toi. Eh oui c'est moi mon con. Oh ma gueule, mais qu'est-ce que tu fous là? Bah tu m'as invité, je suis venu. En plus tu m'as dit qu'il y avait de la meuf. Ah bah grave, allez, rentre en toi, elles sont toutes déjà là. Oh, et donc, si j'étais une meuf hobbit, j'aimerais pas trop faire ça avec Gandalf. Bah par rapport à la taille, tout ça, et Gandalf est 3 fois plus grand, donc je suis pas sûr que ça rentre. Hein. En même temps l'autre c'est un vieux tout décrépit. Et même pas sûr qu'ils sachent encore s'en servir. Hein. Bon, après, c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Hein. Moi, par exemple, la première fois que j'ai fait l'amour, c'est comme la première fois que j'ai fait du vélo. Mon grand-père me tenait par la taille. Bon, Bilbo sert l'apéro, il dit à Gandalf qu'il a pour projet de se barrer en voyage plus ou moins à l'autre bout du monde. Pourtant, avec son âge, je sais pas si c'est bien prudent. Hein. On a vu, les articulations vont pas tenir très longtemps. Hein. Il va encore falloir aller le chercher. Hein. Ah, les vieux, c'est pas possible, hein, mais ça se rend plus compte de rien et ça sert plus à rien à part faire chier le monde. Allez, c'est parti, la chouille peut commencer. Let's fuck! Tout le monde est là, tout le monde fait la fête, tout le monde rigole, tout le monde boit un coup. Et c'est l'occasion de découvrir 3 autres hobbits qui vont avoir un petit rôle à jouer. Sam, le pote de Frodon tout timide et tout moche. Si, il est moche. Bah, il est timide parce qu'il est moche. Ouais, en général, les deux, ça va de pair. Hein. Moi, par exemple, je suis pas du tout timide. Et également, les deux compères inséparables, Merry et Pipin, accessoirement les cousins de Frodon. Hein. Pas au même degré les deux, mais voilà, ce sont des cousins quand même. Et eux deux, ils sont là dans un unique but, faire le plus de conneries possible. Ils vont en faire une chier, il y en a même des hyper graves qui vont tuer des gens. Traduction, ce sont deux petits connards. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va les appeler tout le long de la vidéo. Allez, Bilbo, fais un discours. Alors, j'ai 111 ans aujourd'hui, les gars. Qui sait que j'ai pas baisé là-dedans là? Toi, je t'ai baisé. Toi aussi, je t'ai baisé. Toi, je t'ai pas baisé, toi.
Moi non plus, tu m'as pas baisé.
Je vous ai tous baisé. Et là, tout le monde est content, c'est la fête, évidemment. Et d'un seul coup, Bilbo prend une voix un peu plus faible. Il devient pensif. Et il dit devant tout le monde qu'il se barre.
Au revoir.
Et attention, disparition ninja. Et hop. Wow, tout le monde hallucine, qu'est-ce qui s'est passé? Même Gandalf, il ne revient pas. Tchou! Comment il a fait ça, l'enculé? Et ouais, comment Bilbo a pu disparaître? Mystère! Et non, pas mystère, ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir de l'anneau!
C'est génial, hein?
Bah grave, tu le mets, tu disparais, attends, c'est super! Ah, sauf qu'il y en a un que ça fait pas rire, là, c'est Gandalf le rabat-joie, qui dit qu'il ne faut pas jouer avec les anneaux de pouvoir.
Pourquoi?
Ah, parce que je sais pas, moi, faut voir avec Gandalf, bah, peut-être ça peut être dangereux, tu vois. Et justement, quand Gandalf dit à Bilbo qu'il ne faut pas qu'il prenne l'anneau en voyage avec lui, à Bilbo, lui, il est pas chaud de le laisser, tu vois. Ah, il l'aurait bien gardé, hein. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments quand tu pars en voyage où ça peut être vachement sympa d'être invisible, hein, comme par exemple, tu vas... Du coup, il veut garder l'anneau et il se met à gueuler contre Gandalf en lui disant qu'en fait, Gandalf veut garder l'anneau pour lui. Bon, maintenant, tu vas fermer ta grande gueule et tu vas me filer l'anneau parce que si je veux, moi, je te défonce et je crame toute ta baraque, espèce de petit bouffon. Bah. Ah, mais je vous dis, Gandalf, il faut pas le chercher parce que quand on le cherche, on le trouve. Puis en plus, c'est un ouf. Hein, lui, quand il s'énerve, comme c'est un magicien, il peut mettre des effets et tout. Quoi. Bilbo regarde l'anneau une dernière fois, pur plan en contre-plongée. Là. Il le laisse tomber et il se barre. Enfin, nous en voilà débarrassés. Mais n'ayez crainte, il va revenir. Gandalf regarde l'anneau avec suspicion. Il veut le prendre, mais... Ouais, c'est chelou, ça. Mais bon, l'anneau, il veut pas qu'on le touche, tu vois, donc il se défend comme il peut. Frodon arrive, Gandalf lui dit que Bilbo est parti chez les elfes, il lui file l'anneau, et il se barre. Il veut aller chercher les informations sur l'anneau à la capitale du Gondor, Minas Tirith, et direct qu'il y est. Voilà, ouais, écoutez, c'est facile. Il y a juste 1500 km entre les deux, hein. Normalement, il aurait dû mettre 2 mois pour y aller, mais c'est pas grave. Et il trouve une info cruciale. Il y a des inscriptions qui se révèlent par le feu. Et là, il se dit, génial, on a qu'à le foutre au feu, et puis s'il y a des inscriptions qui apparaissent, bah, ça voudra dire que c'est bien l'anneau de Sauron. Le fléau de Isildur. Il retourne donc chez Frodon, il traverse toute la terre du milieu en moins de 12 parsecs, et il arrive dans la comté. Alors que dans le livre, imaginez-vous qu'il se passe 10 ans entre le moment où Gandalf quitte la comté après l'anniversaire de Bilbo et le moment où il revient à la comté pour parler de l'anneau à Frodon. On remercie Peter de ne pas nous avoir fait attendre autant de temps. Et donc Gandalf demande à Frodon s'il a mis l'anneau en sécurité, et là Gandalf il est carrément en stress, tu vois. Je veux dire, il se dit que si c'était l'anneau de Sauron, bah, Sauron il va envoyer du monde pour venir le récupérer. Donc il est vachement sur le qui-vive, tu vois. Ah, il y a des bruits bizarres dans la comté, il faut pas sortir la nuit. Ils foutent l'anneau au feu, et effectivement, il y a des inscriptions elfiques qui apparaissent. C'était bien ça. Écoute, bah, franchement, bien joué, mon Gandalf. 3000 km aller-retour pour avoir l'info, c'est le cheval qui a dû être content.
Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres.
Et là, Frodon, il en croit pas ses oreilles. Il fait vraiment des bruits bizarres, l'anneau. Moi, je me débarrasserai de cette merde le plus vite possible. Et là, Gandalf dit à Frodon qu'il doit partir, sinon on va le retrouver. Et Frodon, il est chaud, là, il se prépare direct. Bah attends, je dis qu'il va enfin pouvoir quitter son vieux patelin pourri plein de gens dégueulasses, là. Et te content, regarde-le. Il est fier. Fier comme un vaquet. Oh, mais c'est pas possible, ça. Y a quelqu'un qui est malade ou quoi, là? Gandalf va voir, et c'était Sam Gamji qui était là.
Non, pas Gamji, Gamji.
Gamjir.
Gamji.
Oui, bon, bah d'accord, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là tout seul à cette heure-là? T'es côté aux fenêtres, toi, petite ordure? Mais non, pas du tout, j'étais en train de chier derrière un buisson. Et pour la peine, Gandalf va obliger Sam à partir avec Frodon. L'autre, il a rien demandé à personne, il débarque complètement, il sait rien sur rien, c'est un pauvre jardinier. Et la meilleure idée de Gandalf, c'est de l'envoyer protéger l'anneau avec Frodon. Eh bah, dites donc.
On est pas dans la merde!
Tu sais, Frodon, il est dégoûté, quoi. Il voulait partir tout seul et maintenant il est obligé de se traîner l'autre boulet, là. Comment je serais trop vénère à sa place, quoi. Il va même pas pouvoir se branler tranquille. Bon, bah, c'est parti, hein, ouais. Hey. On sait pas où on va, mais on y va. Et puis bon, encore une fois, voilà, là, on a l'impression que dans le film, ils prennent la décision hyper rapidement et que Frodon et Sam y partent le jour même. Alors que dans le livre, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que ça. Quand Gandalf et Frodon découvrent que c'est l'anneau unique, il se passe des semaines avant même qu'ils parlent de simplement l'idée de partir. D'abord, Frodon vend la maison, il en achète une autre plus loin dans la comté, il déménage toutes ses affaires pour pas qu'il y ait trop de soupçons sur lui, tu vois. Alors que c'est justement en faisant un move comme ça que t'attires tous les soupçons sur toi. Qu'est-ce que ça peut être con, un hobbit? Et en fait, alors, d'après les informations que j'ai pu trouver, bon, c'est assez confus. Hein, je suis pas complètement sûr de moi. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui connaissent un petit peu les connaisseurs si j'ai raison ou pas. Mais en gros, lors de l'anniversaire de Bilbo, Frodon a 33 ans. Et quand il part aller détruire l'anneau, il a 50 ans. Il s'est donc passé 17 ans entre cette scène-là et cette scène-là. Vous comprenez maintenant pourquoi le rythme et le langage littéraire n'est pas toujours bien adaptable au rythme et au langage cinématographique, n'est-ce pas? Allez, ils sont partis et direct, il faut une petite pause parce que bon, hein, quand même, hein, on va pas non plus se tuer à la tâche. Hein, et on n'est pas payé. Hein. Ils font ça gratos aussi. Hein, attends, l'anneau il peut attendre. Hein. Non, mais qu'est-ce qui se passe encore là? Mais c'est pas possible, hein. Sérieux, mais soit tout le monde est malade, soit tout le monde est dégueulasse dans ce film. Alors, c'est qui cette fois?
Les elfes des bois.
Oh, génial ça, on va voir des elfes terribles, les mecs, venez voir. Faut s'approcher vite, vite, vite.
L'avion, 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 ça fait lever les yeux. Les femmes, ouais, ça fait lever la queue. C'était un wagon de pines qui revenait d'Arlantine. Y'en avait pour tous les goûts et surtout pour tous les trous.
Qu'est-ce que c'est que ces chansons? J'ai jamais entendu ça. Ah non, mais les elfes, c'est quelque chose. Hein. La culture elfique est connue pour être très raffinée et très classe.
Rends dans la vie, mémé, avec ses doigts tout desséché. Ça rince, ça frotte, ça sent le pâté. La bande d'un mémé, c'est sacré.
C'est marrant, je les voyais pas du tout comme ça, moi, les elfes. Je pensais qu'ils auraient chanté des trucs un petit peu plus classe, tu vois, je sais pas, un petit peu plus lyrique ou peut-être de l'opéra. Mais comme quoi, on croit connaître quelqu'un et puis. Non, bah, c'est sympa. Allez, pendant ce temps-là, Gandalf va voir son patron Saruman pour lui demander conseil. Et on découvre Saruman le Blanc, hein, qui est le chef des Istari. C'est le vrai nom de la race des magiciens. Enfin, c'est pas une race, les magiciens, mais on va le dire comme ça. Et c'est le chef du Conseil Blanc. Hein, ouais. Le Conseil Blanc, voilà. Si les mecs, tu veux, sont pas trop pour l'immigration, toi. Saruman, c'est un mec, c'est obligé, il vote à Rennes. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire là du premier bébé de 2026 qui est né en France et qui s'appelle Zaïd. Bon, bah,
il s'appelle Zaïd, on s'en fout, c'est un prénom, c'est un bébé, toi. Eh ben, Saruman, il a mis un commentaire sur Facebook, il a mis comme par hasard.
Voilà, mais c'est.
Alors que c'est un bébé, on s'en fout complètement, il a rien fait, quoi. Non, mais il va faire. Ah bah ça, c'est sûr, il va faire, oui. Alors là, c'est un bébé, donc comme tout le bébé, il va bien faire chier tout le monde. Et donc, bah, Saruman et Gandalf discutent un petit peu le bout de gras, hein, parce que voilà, bah, mine de rien, ça fait quand même une paye qu'ils sont pas vus. Hein. Alors, comment ça, ma poule? Les fêtes de fin d'année se sont bien passées? Oui, très bien, très bien. Bon, on a eu mamie qui était malade, là, elle nous a crevé dans les pattes, là. Mais ça tombait bien parce qu'on avait pas assez de chaises. Tu parles de mamie Simone ou mamie Josette? Ah non, mamie Josette, elle est morte il y a 2 ans déjà, bah, on avait été obligé de la battre. Ah, ils ont des sacrées histoires à se raconter, les Istaris. En même temps, ils ont 10 000 ans, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils sont plus très frais. Hein. Et d'ailleurs, ils ont pas 10 000 ans, ils sont encore plus vieux que ça. Ils ont même pas d'âge en âge humain, si tu veux. Les 5 Istaris, donc Saruman le Blanc, un ancêtre de Juste, Gandalf le Gris, qui deviendra aussi Gandalf le Blanc, Radagast le Brun, qu'on voit dans la trilogie du Hobbit, et aussi 2 autres mages, Alatar et Palando les Bleus, dont on ne sait quasiment rien à part qu'ils sont partis dans des régions très éloignées. Ces 5-là sont arrivés en l'an 1000 du 3e âge, et au moment du Seigneur des Anneaux, on est déjà en l'an 3000 du 3e âge. Donc déjà, en âge de la Terre du Milieu, ils ont 2000 ans. Mais eux, ils existaient bien longtemps avant. Alors, pas sous forme humaine, mais sous esprit. Ce sont des Maillards, ils ont plusieurs milliers d'années. Donc la mamie Josette, au bout d'un moment, on comprend qu'elle en peut plus. Quoi. Et donc Saruman, il dit que c'est grave la merde, parce que Sauron, il est bel et bien là, hein, qu'il est surpuissant, qu'il est en train de monter une armée. Gandalf l'écoute attentivement, toujours avec un petit verre de pinard à la main. Hein. Bon, attends, quand on peut se faire payer l'apéro, faut jamais refuser. Hein. L'autre pourrait mal le prendre. Ça, c'est la règle d'or de Gandalf. Hein. Et c'est aussi la mienne. Alors par contre, ici, dans cette scène, quelle est l'erreur de Saruman? Regardez bien les plans, soyez bien attentifs. Saruman s'intitule Saruman le Blanc. Et qu'est-ce qui lui sert à Gandalf? Un verre de rouge, voilà. C'est là que ça va pas. Parce qu'on le sait tous très bien. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Et c'est exactement ce qui va se passer, tout va foutre le camp. C'est de la faute de Saruman, en fait. Eh, mais tu vois, des fois, ça se joue un petit détail de rien du tout. Bon, là, il y aura des milliers de morts, mais bon, quand même. Et Saruman dit aussi à Gandalf que les Nazgûl, donc les 9 anciens rois et seigneurs des hommes, qui ont reçu les anneaux au tout début, là, ceux-là, là, et qui ont été corrompus par ces anneaux, sont devenus des serviteurs de Sauron, et sont partis vers la comté pour retrouver l'anneau et tuer le porteur. Il faut donc vite que Gandalf retourne auprès de Frodon pour le défendre. Mais quand il veut repartir, Saruman ferme toutes les portes en disant que c'est trop tard, que ça ne sert à rien de résister à Sauron, et qu'il faut désormais, plutôt, se joindre à lui.
Il faut nous rallier à Sauron.
Et voilà, Saruman le Blanc est en fait Saruman le Traître. Ah, salaud, ouais. C'est bien les Blancs, hein. Tous des traîtres. Et ça plaît pas du tout à Gandalf. Du coup, dites-moi un peu, Saruman, là. Elle a quel goût, la bite de Sauron, là? Ah, et là, Saruman, ça le fait pas rire du tout. Il prend le bâton de Gandalf, il le bloque au sol, il lui fait danser un bon petit freestyler, et il l'envoie s'exploser au plafond. Ha ha! Attends, en fait, il est nul, Gandalf. Et il est bon contre les hobbits, mais ça c'est facile, c'est parce qu'ils sont tout petits. D'ailleurs, ça c'est un truc que Gandalf disait lui-même hein, dans une scène coupée. Il disait les hobbits c'est bien parce que ça a la taille d'un enfant, mais c'est légal. Oh mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Mais bien sûr que si. On l'entend le dire dans le making-of. Retour sur Frodon et Sam qui sont en train de marcher, hein, voilà, bah, ils ont pas fini. Hein. Et là, ils rencontrent Merry et Pipin dans un champ qui était en train de chouer les trucs au proprio. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin de s'appeler Zaïd pour être un voleur. Même si ça aide peut-être un peu, oui. Du coup, ils se barrent tous les quatre en courant, tombent d'une colline et se retrouvent sur une route. Et là, Frodon se rappelle tout à coup ce que lui a dit Gandalf avant de partir. Dès que tu peux, tu lâches le gros, hein. Tu cours vite, il te rattrapera pas. Comme ça, on en sera débarrassé une bonne fois pour toutes. Alors, c'est une excellente idée, mais par contre, après, il n'y aura plus personne pour faire du jardinage.
Ne voyagez que 2 jours.
Ah bah, dis donc, si on voyage que 2 jours, on va pas aller loin.
Et rester loin de la route.
Et ouais, et là, ils sont en plein milieu de la route. Quand soudain, ouh là là là, ça sent le sapin.
Quittez la route!
Vite, le hobbit se cache. Parce que qui voilà? Un putain de Nazgûl, bordel! Il est juste là. Et s'il les trouve, c'est terminé pour eux. C'est ultra chaud, la vache, le suspense, c'est terrible. Sauf que le Nazgûl ne va pas du tout les trouver, hein. Voilà, il va rien voir du tout. Alors qu'ils sont littéralement à 1 mètre de lui. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont en dessous, quoi. Et lui ne les voit pas. Mais putain, tu les vois pas là? Mais ils sont là? Mais baisse la tête, putain, pauvre con! Mais il est complètement abruti, c'est pas possible. Il voit que dalle. Le type ne voit rien, voilà, mais je sais pas, mais il faudrait peut-être qu'il enlève sa capuche, ça marcherait peut-être un peu mieux. Là.
Les hobbits arrivent à faire diversion et se barrent, et ils arrivent le soir au village de Bri, et ils doivent trouver l'auberge du poney fringant, qui est le lieu de rendez-vous que leur a donné Gandalf.
Eh, hey, vous avez vu là, c'est Peter
Jackson. La gueule!
Et quand Frodon demande au barman si Gandalf est là, l'autre il lui répond:
pas vu depuis 6 mois.
Eh, hey, il est pas là, il est pas venu. Eh, hey, t'es bien dans la merde, mon petit pote! Parce que là, tu sais pas du tout quoi faire. Par contre, il y a un autre type qui est là au fond de la pièce là, et qui les mate attentivement. Là. Le type, c'est Stalker 2000, quoi, il fout grave les boules.
L'homme dans le coin là. Qui est-ce?
Il s'appelle Jean-Luc Lahaye, il vous prend pour des enfants. Mais on n'est pas des enfants. Bah mais ça il le sait pas lui. Mon avis, quand il va le savoir, il va arrêter de la regarder tout de suite. Hein. Bon, y'a l'autre abruti de Pipin là qui balance à tout le monde que Frodon est là. Frodon est parmi nous, Frodon est là. Tout le monde s'en fout. Frodon veut lui dire de se la fermer, mais il trébuche. Et l'anneau lui tombe directement sur le doigt, dis donc. Alors ça, dis donc, est pas mal celle-là. Alors ça c'est quand même un peu fort de café. Et du coup, ça appelle tous les Nazgûl. On sait pas pourquoi, mais en fait ça déclenche quelque chose quand tu mets l'anneau, tu vois. Ils le ressentent et ils arrivent à fond comme des oufs. Allez, au triple galop, pile poil. Et surtout là, on va aussi découvrir un truc de ouf. C'est que quand tu mets l'anneau, tu rentres dans une sorte de dimension parallèle, la dimension de Sauron, où tu peux le voir, mais lui aussi il te voit, avec son œil gigantesque. Donc en fait, faut surtout pas mettre l'anneau si tu veux pas que Sauron te voit et sache où t'es. Et heureusement, Aragorn arrive tout de suite, et là, qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'il est quand même méga beau gosse. Et arrêtez un peu vos hypocrisies là de me dire que je ne parle plus toujours que du physique des gens, ce qui est très vrai, mais en même temps, c'est exactement ce qu'on pense tous. Aragorn, c'est le personnage préféré de tout le monde, il est parfait. Et directement, il va sauver la vie de 4 bits.
4 bits ?
Hobbits, en tendant un piège aux Nazgûl qui viennent les tuer dans leur sommeil, sauf que c'était des oreillers. Eh oui. Et là, regardez le plan qui va arriver, j'aime beaucoup ce plan, ils en parlent dans le making-of. Travelling arrière sur les Hobbits dans le lit, et hop, Frodon qui vient s'asseoir sur le lit comme s'il avait toujours été là, tu sais. Sauf qu'en fait, comme la pièce était très petite, le caméraman n'avait pas assez de recul, et ils ont été obligés de dire à Elijah Wood de laisser la place pour la caméra pour faire le travelling, et qu'il vienne discrètement s'asseoir une fois la caméra passée, comme s'il était déjà sur le lit. Sauf que non, on voit bien qu'il vient s'asseoir sur le lit quand la caméra passe. On s'en fout, hein, évidemment, hein, c'est juste un détail, mais je trouve ça marrant parce que je trouve ça se voit en fait. Allez, on traîne pas là, il y a encore la route. Ils ont donc désormais un nouveau guide, Aragorn, qui s'est présenté comme un ami de Gandalf. C'est pour ça que l'Hobbit le suive, hein, même s'ils lui font pas confiance. Et le soir, pendant que tout le monde dort, Aragorn pousse la petite chansonnette toute mignonne. Et donc tu pourrais pas la fermer, t'en essaies de dormir, non, putain. Il te fait chier, lui, encore. Non, mais c'est clair, il est relou. Et en plus, après, il leur dit...
Essayez de dormir, Frodon.
Ouais, bah toi, arrête de chanter, peut-être qu'on y arrivera. Le lendemain, rebelote, une journée entière de marche. Et le soir, ils dorment dans une sorte de tour. Aragorn va surveiller les environs, Frodon, il est en stress. Et les trois autres hobbits décident de se faire un petit gueuleton. Ah bah, ils ont raison, attends, oh, après une journée de marche, le casse-croûte, il fait du bien. Mais putain, éteignez-moi ça, bande de connards. Les Nazgûl vont nous voir. Eh oui, mais évidemment, mais c'était sûr, les Nazgûl les ont vus. Deuxième connerie des deux hobbits, là. Putain, mais laisse tomber Frodon, mais comment il doit être dégoûté, quoi. Ah, il aurait été mieux tout seul, hein. Non, mais t'imagines, toi, tu dois traverser toute la Terre du Milieu pour aller détruire l'anneau unique, et en plus, t'es obligé de te trimballer une bande d'emmerdeurs qui savent rien foutre d'autre à part faire chier le monde. En plus, Aragorn, il est même pas là. Bah, vous êtes bien dans la merde. Oh, moi, je serais Frodon, je me servirais trop les autres comme bouclier humain. Enfin, comme bouclier hobbit. Les Nazgûl arrivent, ils se mettent en ligne, l'exécution va pouvoir commencer. Sam va essayer de défendre Frodon, et évidemment, il va pas y arriver avec son gros fiac, là.
Et pourquoi tu lui manques de respect comme ça?
Non, mais bon, c'est... Non, mais c'est... Bon, c'est vrai que c'est pas sympa, ouais. Excuse-moi, gros fiac, je le ferai plus. Merry et Pipin se font jarter comme des merdes. Frodon met son anneau pour disparaître. Et c'est là qu'on découvre la véritable apparence des Nazgûl. Ils sont plus noirs, ils sont blancs. Ce sont les anciens rois des hommes. Et ils ont une sacrée gueule de tocard. Et moi, ça, on dirait des ministres du gouvernement français. Bah, je dis ça par rapport à l'âge, tu vois. Ils ont l'air vieux. En plus, je dis n'importe quoi, parce que la moyenne d'âge des ministres du gouvernement français, c'est 48 ans. Et je me suis renseigné, ouais. Des fois, je sais vraiment pas quoi foutre quand j'écris mes vidéos. Et peu! Frodon se prend un coup de lame. Il s'est fait poignarder par une lame de Morgul. Et ça, ça va le transformer en spectre. Il faut vite l'amener chez les elfes pour qu'il le guérisse. Il se barre et regardez qui ils vont rencontrer en chemin. Oh là là, oh, la lumière arrive. La voilà, la magnifique, la sublime Arwen. Qu'est-ce qu'elle est belle. Arwen, ça veut dire jeune fille noble, hein, en Sindarin, hein, enfin, en elfique. Et elle a même un magnifique surnom qui lui va si bien. Undomiel, ça veut dire l'étoile du soir. Elle est belle, élégante, vaillante, gentille, douce, et elle aime la bite. Ah bah c'est écrit dans le livre, hein.
Non, là t'as pas dû lire le bon.
Ah bah si, c'est ça. Le seigneur des anus. Mais attention, seigneur, avec un A. N'empêche, excusez-moi de m'attarder un petit peu là-dessus, hein, mais imaginez un peu le truc, quoi. Je veux dire, coucher avec une elfe, quoi. C'est comme goûter un vin légendaire. Non, c'est vrai qu'elle est sublime, quoi. Mais en même temps, c'est une elfe. Les elfes sont magnifiques, ils sont connus pour ça. Allez, Arwen prend Frodo sur son cheval et file au quadruple galop à fond de combe, le domaine des elfes. J'aime pas du tout cette traduction française, la fond de combe. Je trouve ça vraiment moche, quoi. Vous aimez bien, vous?
Oh non, c'est laid, c'est très laid, ça.
Je préfère largement le nom original. Original, Rivendell. Ça fait beaucoup plus elfe, je trouve. Elle se dépêche, mais elle se fait poursuivre par les Nazgûl. Non, non, non. Et là, elle va traverser une rivière, sauf que les Nazgûl ne peuvent pas traverser, parce qu'apparemment, ils ont peur de l'eau. Enfin, on sait pas s'ils ont peur de l'eau, mais du coup, enfin, pourquoi ils la traversent pas, en fait? D'autant plus que quand elle va leur dire de venir la chercher, en fait, ils la traversent. Donc, ils ont peur ou ils ont pas peur? Pourquoi ils ont attendu de la traverser s'ils ont pas peur? Complètement con aussi, ce truc-là. Ou alors, c'est parce qu'ils savent qu'Arwen a le pouvoir de faire monter les eaux en prononçant une formule magique. S'il te plaît, rivière magique, fais-moi plaisir et fais monter les eaux de la rivière pour péter la gueule au noir. Enfin, on est Nazgûl, parce qu'en fait, ils savent pas nager, parce qu'ils sont... Parce
parce qu'ils ont des chevaux.
C'est ça la formule magique?
Bon, c'est peut-être un peu différent, mais si t'actives la traduction 12 par sec, c'est ça que ça donne, oui. Et là, une énorme vague puissante arrive et emporte les Nazgûl avec elle. Et Frodon tombe direct dans les pommes et Arwen, elle se met à pleurer alors qu'elle vient de le rencontrer, tu sais même pas comment il s'appelle. C'est bon, on rajoute pas non plus, toi, fais pas comme si ça t'affectait à ce point-là. Non, mais les elfes, ils en font trop, de toute façon. Il est dit dans le livre qu'ils ressentent les émotions des autres, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont très émotifs, quoi. Et Frodon se réveille quelques jours plus tard à Rivendell, en compagnie de Gandalf, qui lui explique qu'il a été retenu par Saruman, mais qu'il a réussi à s'échapper. Et on découvre Rivendell, fond de comble en français, le quartier des elfes. C'est beau, c'est propre, c'est lumineux, il y a des plantes partout, les mecs ils ont un air dédaigneux, ils te prennent carrément de haut. Je suis sûr ils sont véganes, oh, c'est obligé. Ça c'est typiquement les mecs qui doivent faire des vieux sports de bobo, genre du paddle ou de l'escalade. Mais qui fait de l'escalade, sérieux? La seule personne au monde que je peux regarder faire de l'escalade sans me foutre de sa gueule, parce que c'est hyper réaliste, c'est Tom Cruise au début de Mission Impossible 2. Là d'accord, là je dis oui. Et Frodon retrouve aussi Bilbo, regardez, il est là, il est goyot. Oh la vache, il a ramassé. Hein. Et oui, tant qu'il avait l'anneau, son vieillissement ralentissait. Mais maintenant qu'il l'a plus, là je l'ai rattrapé. Et là on a un petit dialogue entre Elrond, le chef des elfes, et Gandalf. Bon, dis donc, c'est bien sympa tout ça, mais tu comptes en faire quoi de l'anneau là? Bah je me disais que peut-être vous pouviez le garder, hein, il sera en sécurité ici. Oui, bien sûr, oui. Sauron et Saruman, ils lèvent des armées qui tuent tout le monde pour le retrouver, et toi tu t'es dit qu'il fallait l'amener ici. Bah après, vous êtes des elfes, vous savez vous défendre, non? Et en plus, il est beau l'anneau, et ça fait classe de l'avoir. Moi j'aimerais bien l'avoir. Bah garde-le alors. Non, non, mais là moi je peux pas, mais non, mais franchement, vous devriez être fan de l'avoir. Hein. Mais carrément pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? On veut pas de ça chez nous, je te dis. Eh oui, problème, Gandalf pensait pouvoir se débarrasser de l'anneau en le laissant à Rivendell, mais Sieur Elrond n'est pas du tout de cet avis. Et du coup, ils vont organiser un petit meeting pour savoir un petit peu quelle va être la marche à suivre, avec plein de gens qui ont été invités pour l'occasion. Et notamment Boromir, un homme, Legolas, un elfe, et Gimli, un nain. Et le conseil d'Elrond peut commencer.
Étrangers venus de terres lointaines, amis de toujours, vous vous êtes rassemblés ici afin de répondre à la menace du Mordor.
Ah, il y a Frodon qui est toujours un peu malade, là. Ou alors c'est ce qu'il a bouffé à midi, je sais pas, mais là, il y a un truc qui passe pas, là. Bon, en gros, pendant ce conseil, il y a Boromir qui va dire qu'il faut lui filer l'anneau. Legolas qui va lui répondre d'arrêter de faire son crâneur, là. Gimli qui va essayer de détruire l'anneau, mais au lieu de ça, il va détruire sa hache. En gros, on n'avance pas beaucoup. C'est une réunion, somme toute, assez classique. Elrond dit qu'il faut aller jeter l'anneau dans les flammes de la montagne du Destin, là où Sauron l'a forgé, et il va bien falloir que quelqu'un se dévoue. Et comme personne ne veut le faire, eh ben c'est Frodon, notre petit bout du Hobbit, qui se porte volontaire. Et ça, ça fout une claque aux autres, là, parce que c'est tous des guerriers. Et puis bah là finalement c'est un gamin qui se porte volontaire pour aller au-devant de tous les dangers. Enfin c'est un gamin, techniquement il a 50 ans, mais bon. C'est ça aussi le piège avec les personnes de petite taille. On sait jamais vraiment quel âge ils ont. De toute façon ils s'habillent en 12 ans, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et du coup les autres ils se disent que s'ils vont pas, ils vont passer pour des gros bouffons. Donc ils se portent tous volontaires pour accompagner Frodon. Aragorn, Legolas, Gimli, le trio de ouf. Boromir aussi qui se joint à la fête. Sam bien sûr, Merry et Pipin qui ne sont jamais loin. Et Gandalf qui sera leur guide.
9 compagnons. Vous formerez la communauté de l'anneau.
Et voilà, encore un putain de meeting qui a duré 2 heures alors que tout ça serait pu se régler avec un email. Mais le problème, c'est que dans le Seigneur des Anneaux, personne ne lit ses emails. Allez, c'est reparti, cette fois en direction du Mordor et de la montagne du Destin.
Et ils y allèrent. Ils marchèrent longtemps.
Donc là, bah, à partir de maintenant, ils vont marcher. Hein, voilà. Ça va vraiment surtout être ça. Ils vont passer par plein de chemins différents. Là, par exemple, ils passent par là, mais ils vont direct se faire voir par les espions de Saruman. Ils sont quand même pas très malins. Moi, franchement, je l'aurais su tout de suite. Et donc, bah voilà, ils doivent changer de chemin.
Il faut passer par le col de Caradhras.
Et ils y allèrent. Ils marchèrent longtemps.
Et voilà. Il marche, en fait. Bah, c'est, voilà. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ça va surtout être de 9 personnes qui marchent. Ils galèrent de ouf dans la montagne, et en plus, il y a Saruman qui leur jette des sorts pour créer des avalanches. Théma, ce plan de ouf, là. Oh là là, mais si ça, c'est pas un des plans les plus classes du film. Je me rappelle, au cinéma, c'était hyper impressionnant. Ce mouvement de caméra de ouf, là. Ah, ils ont filmé ça avec un drone. Et Gandalf va essayer de contrer le sort de Saruman avec une incantation bien de chez lui. Mais ferme ta gueule, putain, connard! Laisse-nous passer, bordel, mais qu'est-ce qui nous emmerde, là, t'as pas autre chose à foutre? Eh oui, c'est une ancienne langue du Mordor que je ne prononcerai pas ici. Mais Saruman est le plus fort, et il déclenche une avalanche qui ensevelit tous nos amis. Bon, donc, bah voilà, par les montagnes, c'est compliqué aussi. Qu'à cela ne tienne, on va prendre un autre chemin. S'ils peuvent pas passer au-dessus de la montagne, vous savez par où ils peuvent passer?
Oui, par en dessous.
Exactement, par en dessous.
Passons par les mines de la Moria.
Et ils y allèrent. Ils marchèrent longtemps.
Et là, j'aime bien parce que, alors, la Moria, c'est le repère des nains, cette fois, donc là, c'est un peu Gimli qui gère. Et lui, il est carrément chaud, tu vois, et quand ils arrivent et qu'ils voient la Moria, ils disent « Oh, les murs de la Moria !»
Les murs de la Moria.
Oui, C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un mur, quoi. C'est juste une falaise, quoi. C'est des rochers. C'est même pas très beau, en plus. Je pense que dans toute la terre du milieu, il y a des trucs qui sont un peu plus jolis que ça, quoi. Allez, ils arrivent devant la porte, et il est écrit en elfe.
Parlez, amis, et entrez.
Et ça, c'est marrant, parce que c'est aussi ce qu'il y a écrit sur le paillasson devant chez moi, devant ma porte d'entrée. Speak friend and enter. Vous vous rendez compte? Tolkien s'est inspiré de ce qu'il y a écrit sur mon paillasson pour créer les portes de la Moria. C'est quand même un truc de ouf. Et ben voyez, il y a que sur 12 parsecs que vous verrez des trucs comme ça. Gimli leur dit que ça va être grave la fête, que son cousin Balin vit ici, et qu'il va tous les accueillir avec une bonne petite pintade et Vlad la cochonaille, parce que les nains, ils savent vivre, tu vois. Ils se laissent pas abattre. Ils voient les choses en grande. Enfin, de leur perspective à eux. Tout le monde entre, et là, la soirée, bah, elle est terminée. Hein. Y a plus de bière, y a plus de chips, y a plus rien. Là. Ils se sont fait attaquer par des gobelins. Bon, là, encore une fois, ça sent le sapin. Il faut pas qu'ils restent là. Il faut encore qu'ils changent d'itinéraire. Sauf que dehors, ils se font attaquer par une énorme bestiole horrible aussi. Une sorte de mélange entre le kraken et un carlin. Ça s'appelle un karken. Ou un kralin, je sais pas, comme vous voulez. En tout cas, s'il y a vraiment eu un accouplement entre les deux, la vache, la femelle carlin, elle a dû souffrir. Il en a fallu des palettes de Chatterton pour pas qu'elle explose. Bon, là, je vous passe la scène d'action qui est somme toute assez cool. Hein. Tout le monde rentre, la porte d'entrée s'écroule, donc ils n'ont plus le choix. Ils vont devoir affronter les ténèbres des mines de la Moria.
Il nous faudra 4 jours de marche pour atteindre l'autre côté. Espérons que notre présence passera inaperçue.
Oui, oui, tout à fait. Vous allez bien passer inaperçu, oui. Gardez quand même une main sur votre épée, hein, on sait jamais. On vous rappelle quand même que vous trimballez 2 abrutis avec vous.
Et ils y allèrent. Ils marchèrent longtemps.
Ils marchèrent 4 jours jusqu'à arriver à une immense salle de ouf. Le hall officiel dans lequel se déroule le championnat du monde de lancer de nains. Le challenge étant d'éviter les poteaux. Ah, il y a eu beaucoup de morts, oui. C'est pour ça que les nains ont presque tous disparu de la terre du milieu. Et là, Gimli court dans une petite salle. Et là... Oh là 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 là, le bordel, regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette béchamel? Gimli découvre malheureusement que son cousin est mort depuis environ 10 000 ans. Mais attendez, mais matez-moi la déco, là. La tombe, elle a l'air d'être d'un autre âge, les squelettes au sol, ils sont là depuis des siècles, et c'est maintenant que tu découvres que ton cousin est mort, toi. Bah dis donc, la communication dans la famille, c'est pas terrible. Ils avaient même pas un groupe WhatsApp, tu sais, le groupe WhatsApp de la famille, hein. C'est quand même pratique pour annoncer qu'un cousin est mort. Et d'abord, il vient d'où cet énorme faisceau de lumière, là, qui tombe sur la tombe? Parce qu'ils sont quand même censés être à des centaines de mètres de profondeur. Ils sont dans des mines. Et là, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le connard en chef de cette communauté. Le préposé aux conneries. J'ai nommé ce tocard de Peregrine Took. Pipin pour les intimes. Pipin en anglais, ouais. Scory Pipin. Il s'approche lentement d'un squelette qui est là. Gandalf leur a dit de surtout rien toucher, mais l'autre demeuré, là, il peut pas s'en empêcher. Sauf qu'évidemment, le truc tombe, ce qui te fait un boucan de tous les diables qui résonnent dans toute la Moria. Ce qui permet bien évidemment à tous les orques qui dormaient profondément partout dans les mines de bien entendre leur affût de malades et d'arriver par milliers pour venir trucider nos amis. Et on applaudit bien fort Pipin, la grosse pine. J'ai tellement envie de lui en coller une à celui-là. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je le déteste. Et c'est parti pour l'énorme baston de ouf. Cette scène est absolument géniale. Ça se bastonne dans tous les sens, ça découpe des membres. Il y a un énorme troll des cavernes qui tabasse sa mère. Il essaie d'écraser Sam qui lui passe en dessous. Boromir le retient mais se fait éjecter comme un malade et contre le mur. Je sais même pas comment il fait pour survivre à ça, il devrait juste avoir tous les os brisés. Tout le monde se bastonne, Gimli évite les coups du troll de justesse. Legolas lui tire 2 flèches dans le cul, Gandalf qui envoie du lourd et le Hobbit qui s'y met aussi. Non, sans déconner, cette scène est clairement dans le top 3 des meilleures scènes du film, peut-être même certainement dans le top 10, voire même le top 5 de toute la saga. Je sais pas, il faudrait vérifier. Le troll essaie de tuer Frodon, Aragorn vient le défendre mais s'en mange une belle aussi. Finalement, ils arrivent quand même à s'en sortir et tout le monde se barre en courant. Et alors là, mes amis, alors là, ça devient sérieux, là. Là, on va passer dans un tout autre registre. Puisque le prochain ennemi qui va arriver, alors, on sait pas ce que c'est, on ne le voit pas, mais on l'entend au loin. Et on comprend tout de suite qu'il a l'air hyper vénère. Tous les orques l'entendent aussi et se barrent en courant. Et surtout, j'adore ce que Gandalf dit aux autres.
Un Balrog, un démon de l'ancien monde, cet adversaire est plus fort que vous.
J'ai toujours carrément kiffé cette phrase-là, là, cet adversaire est plus fort que vous, parce que venant de Gandalf, ça sonne un petit peu comme une sorte de vérité absolue contre laquelle tu peux rien faire. Cet adversaire est plus fort que vous, voilà, c'est-à-dire que voilà, on peut rien faire, il y a rien à faire, c'est même pas la peine d'essayer, il faut juste se barrer en fait, sinon on meurt. Ça sonne un peu comme un coup de marteau, quoi. Et un peu dans un autre style aussi, mais je sais pas, qui me fait penser à ça. Il y a le même genre de phrase comme ça assassine dans le film Titanic, quand le charpentier explique que le Titanic peut rester à flot avec 4 compartiments inondés, mais pas 5, et que là, il y en a 5 et qui va même y en avoir plus, il regarde tous les gars dans la pièce et il leur dit ces quelques mots qui font froid dans le dos.
À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic
va sombrer. C'est une certitude mathématique.
C'est une certitude mathématique. La phrase qui te plante un couteau dans le bide, quoi. Tu n'y peux rien, c'est comme ça. Allez, grouillez-vous, le Balrog arrive. Putain, mais regardez-moi la classe intersidérale du truc, quoi. Comment c'est terrible. Il manque juste les gants de boxe et là, on a le méchant ultime. Il traverse le pont, j'adore le plan, là, qui suit Frodon, qui traverse le pont en entier. C'est un plan comme les autres, hein. Franchement, c'est pas le plan le plus ouf du film. Mais pourtant, ouais, je sais pas, c'est un de mes plans préférés. Je trouve que niveau, encore une fois, des effets spéciaux, juste un plan comme ça, ça fonctionne hyper bien. Et là, c'est parti. Le duel ultime. Peut-être le plus connu de toute la saga. Gandalf contre le Balrog. On en a fait des posters, des tableaux, des displays, des fonds d'écran, des tout ce que vous voulez. Gandalf se dresse contre le démon, il a même pas peur. Enfin, on va voir un peu sa puissance. Parce que bon, c'est vrai que pour l'instant, on sait que c'est un magicien, mais bon. À partir des feux d'artifice, fumer de la weed et parler aux papillons, on l'a pas vraiment vu faire des trucs de ouf, hein. Si ça se trouve, c'est une pure arnaque, le Gandalf, en fait, là. C'est juste un clodo qui dit qu'il sait plein de trucs, mais au final, il reste là pour avoir de la bouffe et puis avoir de la compagnie, hein. Ah, non, quand même, il arrive à contrer le coup d'épée du Balrog, là. Ah non, il a un petit niveau, là, non, il est pas mauvais. Là. Et là, d'un seul coup, Gandalf repense à ce qu'a dit Donald Trump quand il a vu tous les Mexicains arriver à la frontière avec le Texas, et il hurle. Eh oui, vous ne passerez pas. You shall not pass en VO. Et boum ! Le Balrog s'avance, mais le pont s'écroule sous ses pieds et il tombe dans les abîmes. C'est fini, Gandalf a vaincu le Balrog. Qu'est-ce qu'il est fort ce Gandalf ! Et fin ! Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le film Le Seigneur des Anneaux. Ah non, putain, attendez, regardez, c'est pas fini là. Le Balrog lui balance un dernier petit coup de fouet en loose dé là. Un bon petit coup de pute comme on les kiffe. Ce qui déséquilibre Gandalf qui s'accroche au pont. Oh le pauvre ! Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va tomber ? Est-ce qu'il va pas tomber ? Eh bien, vous le saurez au prochain épisode. J'ai faim !
Fuyez, pauvre fou!
Oh putain, le con, mais il s'est lâché! Il s'est laissé tomber!
Non!
Si! Mais pourquoi il a fait ça? On aurait pu venir le sauver, là, il avait juste 10 secondes à attendre en plus! Moi, je crois que c'est parce qu'il en avait marre de voir leur gueule de pleurnichard aux autres, là. Il s'est certainement dit que l'anneau c'était pas son problème et qu'il voulait juste qu'on lui foute la paix, hein. Et voilà, Gandalf est mort, Aragorn n'arrive pas à y croire! Personne n'y croit, tout le monde pleure, c'est horrible! Ouais, bah chiale, toi, c'est ta faute, connard! Si t'avais pas fait tomber le squelette dans le puits, tout ça, ça serait pas arrivé! Sérieux, on peut pas le jeter dans le trou lui aussi, là? Et Frodon qui s'est éloigné tout seul et qui pleure aussi. C'était pas ma guerre. Eh oui, adieu le vieux clodo qui pue. Allez, pas le temps de niaiser, on continue là. Il faut maintenant traverser la forêt du Lothlorien. Et dans cette forêt vit une grande sorcière elfe. Sérieux, non mais on peut pas avoir la paix de deux minutes. Dès qu'on sort d'un truc de merde, il faut tout de suite qu'il y en ait un autre. On se croirait sur la chaîne Astronogeek. Et donc là, bah les gars doivent rester sur leur garde, hein, pour pas se faire choper. Hein. Ah, trop tard. Voilà, bah. Les mecs sont là, quoi. T'es genre à 50 cm. Quoi. Ça m'a toujours fait marrer aussi. Ça a été, ils sont dans la forêt. T'imagines, tu marches comme ça, bah y a personne. Et d'un seul coup, y a un mec qui est là. À 2 cm de toi, t'sais. Je sais pas comment ils ont fait pour pas les voir, en fait. Et ils se font donc choper par des elfes, qui leur disent qu'ils ne peuvent pas passer par là parce qu'ils amènent un grand danger avec eux.
Vous ne pouvez aller plus avant.
Ok, bah on va aller après, alors. Bon, on y va, les gars. C'est par où pour aller après ? Et finalement, les elfes les emmènent dans leur QG, et là, ils vont rencontrer le roi Celeborn et sa dame Galadriel. Et Galadriel, c'est tout simplement l'elfe la plus puissante de la Terre du Milieu. Putain, la vache, je sais pas ce que c'est qu'ils ont mis comme ampoule au plafond, là, mais là, ça crache, hein. Galadriel, elle vient carrément du premier âge. Elle a plus de 8000 ans. Elle est hyper bien conservée. Hein, ouais. Non, vraiment, non, mais elle envoie du très très lourd. C'est à elle que Sauron a donné l'un des 3 anneaux de pouvoir des elfes. Elle voit les intentions des gens, elle perçoit les futurs possibles, elle communique par la pensée. C'est pas compliqué, Tolkien l'a dit lui-même. Dans tout l'univers de la Terre du Milieu, il y a qu'un seul personnage qui peut la battre, c'est Chuck Norris. Celeborn et Galadriel disent aux gars qu'ils peuvent dormir là, mais juste pour une nuit. Hein. Demain matin à 6h, ils sont barrés. Oh, leur domaine, c'est pas l'Arche de Noé non plus. Bon, vous vous installez dans un coin, vous vous faites oublier. Là. Et le premier que j'entends, il dégage. Du coup, ils se mettent dans un coin à côté des poubelles. Et là, Legolas entend une chanson, et il dit aux autres que c'est une complainte pour rendre hommage à Gandalf parti trop tôt. Bon, il avait 7000 ans, mais c'est quand même trop tôt. Et là, regardez-moi bien ce connard de Legolas. Comme la chanson est en elfe, il n'y a que lui qui comprend, et Aragorn aussi qui parle elfe. Et là, il y a Merry qui va lui demander qu'est-ce que raconte la chanson sur Gandalf.
Que disent-ils de lui ?
Je n'ai pas le cœur à vous la traduire. Ma peine est encore trop récente.
Mais ferme ta gueule, toi. Non, mais arrête un peu de te la jouer, là. Genre, t'es plus triste que nous, quoi. Alors qu'avec Gandalf, vous êtes même pas changé une phrase de tout le film. S'il y en a un qui en a rien à foutre de Gandalf, c'est bien toi. Aragorn se lève, il a une petite fringale, et il va voir Boromir qui fait la gueule tout seul dans son coin, là. Et Boromir va lui parler de son peuple et des hommes et du fait que tout est perdu pour le Gondor. Mais Aragorn, lui, s'en fout, il est juste la dalle.
Cela fait longtemps que nous n'avons plus d'espoir.
Ah, et est-ce qu'il vous reste des spums ? Non, il n'y en a plus non plus. Bon, bah, je vais vous prendre des sprunes et puis quelques spèches aussi. Et là, Frodon va voir Galadriel parce qu'il sent qu'elle est un peu puissante.
Est-ce que vous êtes aussi puissante que vous êtes belle?
Oui, exactement, oui.
Ah bah vous devez pas être très puissante alors.
Et là, Galadriel va lui proposer de regarder dans un miroir qui révèle des trucs.
Quoi comme truc?
Des trucs, tu verras.
Non mais quoi comme truc
Mais tu verras, j'en sais rien moi, bordel, regarde et fais pas chier. Sérieux, mais tout le monde est ultra vénère dans ce film.
Ce serait tellement génial si les dialogues c'était vraiment ça.
Faudra vraiment que je me redouble un film en entier en fait. Et là, Frodon se penche dans le miroir d'eau et il voit ses amis qui le regardent. Tous ses amis qui le regardent suspicieusement. Il voit ensuite s'accompter aux mains des orques avec tous les hobbits enchaînés. Il voit carrément l'œil de Sauron. Et là, il prend peur et il va carrément faire un move de ouf. Il va proposer à Galadriel de prendre l'anneau. Et alors elle va direct rentrer dans un bad trip de malade en disant
« Oui, je veux l'anneau, je vais faire des trucs de ouf, vous allez voir. Je supprimerai tous les carlins de l'hiver et je les transformerai en poisson-pigeon. »
Elle part complètement au délire, toi. Mais après, elle se calme direct pour finalement refuser. Elle a réussi l'épreuve, elle ne s'est pas laissée tenter par l'anneau. Elle est trop puissante. Mais elle fait un peu flipper quand même. Bon, on est le lendemain, faut qu'il dégare. Mais avant de partir, Galadriel leur fait des cadeaux. Alors vous allez voir qu'il y en a, ils ont eu des purs trucs, et il y en a d'autres, ils se sont bien fait niquer sur ce coup-là. Aragorn, Merry et Pippin, ils ont eu une pure dague elfique de ouf. Legolas, il a eu un nouvel arc, tu vois. Et regardez bien qu'est-ce qu'elle a donné à Sam.
Tiens, voilà une corde pour que tu puisses aller te pendre, parce que t'es vraiment un gros tas de merde, tu sers à rien.
Ok, bah super sympa, et merci beaucoup.
Et Frodon, il a eu quoi?
Tiens, toi, je te file un petit flacon, tu fais ce que t'en veux. Tu fous ce que tu veux dedans, je m'en fous. Puis tu verras si le secoue, ça fait de la neige aussi.
Putain, l'arnaque, quoi. Comment je serais trop dégoûté.
Allez, faut qu'ils atteignent maintenant les chutes de Roros.
Et ils y allèrent. Ils marchèrent longtemps.
Enfin, ils naviguèrent plutôt. Et puis d'ailleurs, il faudrait qu'ils naviguent un peu plus vite parce que là, ils sont poursuivis par des orques et des Uruk-hai. Ce sont des orques méga cheatés qui peuvent marcher au soleil. Parce que normalement, les orques, ça craint le soleil. Comme beaucoup de méchants dans l'Heroic Fantasy. Je sais pas pourquoi. Et là, la communauté arrive devant les gigantesques statues de la police française. Stop, arrêtez au papier, s'il vous plaît. Non, en fait, ce sont les magnifiques statues de l'Argonath qui représentent Isildur et son père Anarion. Comment ça, méchamment de la gueule aussi, ça. Allez, faut continuer à pied. Et là, Frodon, il va faire un petit tour. Et c'est précisément ce moment que ce gros chien de Boromir va choisir pour essayer de lui chourer l'anneau. Et oui, parce que l'anneau corrompt les gens et exploite leurs failles. Et Boromir va se servir de l'anneau comme une arme pour détruire Sauron. Sauf qu'il ne réalise pas que c'est lui que l'anneau va détruire. Et ça, Frodon, il ne le sait que trop bien. C'est pour ça que non seulement il va réussir à s'échapper en mettant l'anneau, mais il va prendre une énorme décision. Il va décider de continuer la route, seul. Parce qu'il sait très bien que s'il reste, il met tous les autres en danger. L'anneau est en train de détruire la communauté. Aujourd'hui, c'est Boromir, et demain, ce sera qui? C'est pour ça qu'il décide de partir avant que les choses n'empirent. Et d'ailleurs, il fait bien de partir parce que regardez qui c'est qui est là. Oh, tous les copains qui sont venus dire au revoir. Ça, c'est vachement sympa. Mais Aragorn ne va pas leur laisser cette chance. Et c'est parti pour la grande baston finale. Alors là aussi, ça va être assez long, il va se passer plein de trucs, mais comme la vidéo est déjà elle aussi très longue, bah, je vais me permettre d'abréger encore une fois. Et Legolas et Gimli arrivent à la rescousse pendant que Frodon s'échappe. Merry et Pipin le voient et comprennent qu'il s'en va. Et là, eux aussi vont enfin avoir leur toute petite minute de gloire, puisqu'ils vont attirer l'attention des Uruk-hai pour que Frodon puisse s'échapper. C'est bien les gars, bravo, super, on vous félicite. Ça aurait été bien d'être aussi bon pendant toute la durée du film, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il est jamais trop tard. Et alors que voilà Boromir à la rescousse, lui aussi il veut se racheter de ses erreurs. Et il va être incroyable notre Boromir, parce qu'il va se battre jusqu'au bout. Et même quand il va se prendre une flèche dans le bide, il va continuer. Et même quand il va se prendre deux flèches dans le bide, il va continuer. Parce qu'il n'abandonne pas Boromir. C'est le courage et l'héroïsme incarné. Ouvrez un dictionnaire et regardez à bravoure, grandeur et sacrifice. Vous ne verrez pas une photo de Boromir, vous verrez une photo de moi. Voilà, par contre, trois flèches dans le bide, là ça fait beaucoup. Là. À un moment donné, c'est pas non plus un surhomme. Hein. Il faut qu'il crève parce que je suis désolé, mais ça reste quand même qu'un sale chien de voleur de merde. Merry et Pipin se font enlever, Boromir est sur le point de se faire exécuter, mais Aragorn arrive encore à la rescousse. Oh Aragorn, mais alors lui par contre il est parfait. Lui c'est le Jon Snow de Game of Thrones. Le jour où il reprend sa place sur le trône, je serai sa main. C'est le goat de la trilogie, je veux pas le savoir. C'est certainement pas Sam avec son gros fiacle.
Tu l'as déjà dit ça?
Oui je sais, je l'ai déjà dit. Mais...
Grosse baston entre Aragorn et PH, et ce truc de ouf, décapitation. Aragorn c'est trop un tueur. Entre parenthèses, regardez le making-of si vous avez l'occasion, parce qu'il paraît que dans cette scène-là, Viggo Mortensen a carrément failli mourir. Il court voir Boromir, mais c'est trop tard, c'est la fin. Et Boromir, dans un dernier souffle, alors qu'il avait au début dénigré Aragorn, et rejeté le fait qu'il était le descendant d'Isildur et donc le vrai héritier du trône, dira dans son dernier soupir...
Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi.
Ils attendront son retour de la Tour Blanche.
Mais il ne reviendra pas.
Ah putain, mais tout ça parce qu'au départ, Saruman a servi un verre de rouge au lieu de servir du blanc. Vous voyez un peu les dangers de l'alcool. Hein. Et Frodon lui aussi se prépare pour un voyage sans retour. Il prend le bateau et s'en va. Mais c'est sans compter sur Sam qui ne l'abandonnera jamais. Putain de boulet, non mais tu peux pas lui foutre la paix une bonne fois pour toutes. Tu vois pas que ça fait 3 heures qu'il essaye de te semer là? C'est pas possible ça, hein. Tu devrais sentir toi-même que tu gênes. En plus, regardez-moi le cet abruti là. Il veut rejoindre Frodon, mais il sait même pas nager. Et du coup, il se noie ce pauvre gland. Mais c'est pas possible qu'elle meure de con. On peut pas travailler avec des abrutis pareils. Ah, je vous jure, il mérite bien ce qui lui arrive celui-là. Et sauf que non, car Frodon lui attrape la main à la dernière seconde et le remonte sur le bateau. Et là, Sam lui dit qu'il a fait une promesse à Gandalf. Il ne doit pas perdre Frodon.
Pas le perdre. Oh, Sam.
Gay. Hi. Vous le voyez venir, Brokeback Mountain, là ? Le secret. Et finalement, Frodon accepte que Sam vienne avec lui. Bah, en même temps, faut dire que l'autre, il porte les sacs. Hein. Il est relou, mais bon, c'est pratique de l'avoir quand même. Hein. Et ça, Frodon ne le sait que trop bien. Aragorn les voit partir, mais décide de ne pas les suivre. Et là, quand on pense que tout est fini, que la communauté a échoué, Gandalf et Boromir sont morts, Merry et Pipin se sont fait capturer, Frodon et Sam partent de leur côté, la communauté est complètement éclatée au sol. Croyez-vous qu'Aragorn va abandonner ? Croyez-vous qu'il va baisser les bras et renoncer à son devoir ? Eh bien oui, exactement. Oui, il déclare forfait. Bon bah écoutez, on va rentrer, hein. Tout le monde est barré, ça sert plus à rien, hein. En plus on a fini les olives. Mais bien sûr que non, il s'équipe, il s'arme, et il dit à Gimli et Legolas.
Allons chasser de l'orque.
Et le voilà notre magnifique trio de guerriers badass, l'un des meilleurs de toute l'histoire du cinéma, avec également Tintin, le capitaine Haddock et Trifon Tournesol. Et on termine avec Frodon et Sam qui font face au Mordor. Une très longue route semée de pièges et d'embûches les attendent. Frodon dit qu'ils ne reverront certainement jamais les autres, et Sam lui répond qu'il ne faut jamais dire jamais.
Je suis content que tu sois avec moi.
Tu vas pouvoir porter les sacs. Et fin. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. C'est officiellement la vidéo la plus longue de la chaîne, j'espère qu'elle vous a plu, et un immense merci à toutes celles et ceux qui sont encore là. Quand je pense que la communauté de l'anneau est le moins long des trois films, et que je vais évidemment faire les deux autres, je pense que pour la vidéo sur le retour du roi, on devrait peut-être atteindre les 2 mois. Allez, avant de vous quitter, je vous parle très rapidement de 2 vidéos, tout simplement parce que je suis dedans. D'abord une petite vidéo très simple, mais aussi très longue, hein, dans laquelle la chaîne YouTube Kazazel 1899 est venue chez moi pour filmer tout mon décor et ma collection. Ça dure 2h40 les gars, et on parle d'absolument tout. Cinéma, astro, manga, pop culture, bière et beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs je suis dégoûté parce que Kaza, le gars, est venu chez moi fin décembre. Et 10 jours plus tard, je recevais mon cadeau de Noël, les 2 plus belles figurines de ma collection. Vi et Jinx, les 2 frangines de League of Legends / Arcane. Il a pas pu les filmer, donc je vous les montre là parce que je n'en suis pas peu fier. Et la deuxième vidéo est une vidéo qui me tient extrêmement à cœur, puisque j'ai été invité sur la première chaîne YouTube de basket française, First Team. Je suis ces mecs-là depuis leur début quand ils ont commencé il y a 10 ans. Et cette fois, j'ai eu l'immense honneur d'aller chez eux pour tourner une vidéo sur les meilleurs films de basket. On a fait une tier liste d'une 20aine de films sur le basket et c'était un pur régal de pouvoir les rencontrer. Je peux vous jurer que avoir été chez eux pour les rencontrer et faire une vidéo avec eux, et bah pour moi c'est ce qu'on appelle une petite victoire. Je remercie aussi MyHeritage encore une fois d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas que vous avez le lien dans la description pour avoir les 14 jours gratuits et pour en découvrir plus sur vos ancêtres. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 par sec. Tchou.